RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, rediffusion. Aujourd'hui, de grands reportages. On part au Mali, où l'intervention française a commencé il y a plus de 4 ans, en janvier 2013. La force Serval, d'abord, a délogé les groupes djihadistes qui occupaient le nord. Elle est ensuite devenue force Barkhane, présente dans 5 pays du Sahel pour lutter contre des occupants devenus terroristes. Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Mourabitoun, Ansardine mènent chaque semaine des attaques meurtrières contre les forces maliennes, onusiennes et françaises, les civils sont également victimes de leurs mines. Fin décembre, la force Barkhane a mené une opération d'envergure dans l'extrême nord du Mali, à la frontière algérienne, l'opération Iroquois, dans l'une des dernières zones refuge des groupes djihadistes. Barkhane chasse aux fantômes dans le désert nord-malien. Je vous propose de réécouter ce grand reportage signé David Baché.
La roche noire et brute étincelle au soleil, perçant les vastes étendues de sable et de poussière qui absorbent la lumière. Ligne de crête mouvante, un convoi de véhicules fend l'immensité désertique. Ce sont des blindés français de l'opération Iroquois, lancée par la force Barkhane dans l'extrême nord du Mali, le long de la frontière algérienne. La zone d'action et de refuge des djihadistes d'Ansardine et de la Katiba Youssef Ibn Tashfin, allié d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le capitaine Sébastien commande la base française de Tessalit. C'est de là et de Kidal que vient l'essentiel des soldats de l'opération Iroquois.
Le jour de départ de l'opération Iroquois, on s'est fait attaquer, on a ce qu'on appelle une attaque de tir indirect. 4 tirs de roquettes de 122 mm.
Ça, c'était il y a 4 jours.
C'était il y a 4 jours. On n'a pas eu de blessés, par chance. Et hier, quand on était en patrouille sur Tessalit, on a un VAB.
Un véhicule avant blindé.
Un véhicule avant blindé qui a sauté sur un IED.
Un engin explosif improvisé.
La période de décembre est généralement propice aux attaques de tir indirect ainsi qu'aux attaques d'engins explosifs. Et bon, ben, on est dedans.
Et là, entre Kidal et Tessalit, il y a d'autres villes comme par exemple Bourkhessa, Abeibara.
Effectivement, Abeibara est entre les deux. Et effectivement, Abeibara a subi plusieurs attaques, que ce soit de tir indirect ou d'engins explosifs ces derniers temps, oui. Et eux, c'est beaucoup plus fréquent.
C'est malheureusement là aussi qu'a été tué le dernier soldat français de la force Barkhane, il y a moins de 2 mois.
Ah, alors, c'était un convoi logistique qui partait de Kidal vers Abeibara. Son véhicule a sauté sur un engin explosif et il est malheureusement décédé ici. Oui.
Ce genre d'attaque, il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres mines, d'autres engins explosifs improvisés. C'est à cause de ce contexte que l'opération Iroquois, qui vient d'être lancée, a été organisée.
Globalement, oui. L'opération Iroquois consiste à lutter contre les poseurs d'IED. C'est pour capturer, pour éliminer, pour neutraliser ce type d'individus qui sont des terroristes. Et qui, voilà, c'est dans le cadre de cette opération que Barkhane est déclenchée.
Pendant près de 3 semaines, 500 hommes, 200 véhicules et un important dispositif aérien sont mobilisés.
Ici, on va passer par la zone sud, c'est là qu'on a mis le baptême terrain, donc avec les différentes limas, Lima 3, Lima 4, Lima 5 et enfin Tinzawaten.
Dernier briefing avant le départ, le sous-groupement tactique désert numéro 1 est l'une des 3 composantes de l'opération Iroquois. 45 véhicules et 190 soldats quittent les abords de Bourkhessa sous le commandement du capitaine Stanislas.
Dans les 2 prochains jours, on va faire un raid jusqu'aux abords de la frontière algérienne au niveau de Tinzawaten, donc les confins nord-est du Mali. C'est un raid, l'objectif c'est bien d'aller rapidement sur cette position. Ensuite de contrôler cette zone de flux, cette zone de trafic. On va prendre un itinéraire qui nous permet à la fois d'éviter les zones trop montagneuses et aussi d'éviter les zones canalisantes qui sont favorables à l'ennemi pour poser des pièges ou des mines. C'est une zone qui est sous contrôle des groupes armés terroristes. C'est-à-dire qu'ils utilisent ces zones pour faire leur trafic, ils utilisent ces zones pour aller frapper à l'intérieur du pays.
Leur trafic, ça veut dire
tout ce qui est trafic illégal qui permet de se financer, donc drogue et trafic humain.
Humain, c'est migrant.
Humain, c'est migrant.
On embarque ?
Avec 40 millions par
l'heure. Verrouillé !
Ils doivent faire pour
Pendant 4 jours, les soldats vont multiplier les fouilles, les contrôles et la prise de renseignements dans un désert jamais aussi vide qu'il ne le paraît. Au détour d'une piste, 3 camions soulèvent la poussière. Ils viennent d'Algérie.
Il y avait quoi comme marchandises que vous transportez ?
J'amène farine. On va partir le Niger.
D'accord. On va faire le tour du camion ensemble ?
Tous les camions là. Les 7 camions. Ça.
Ouais. On va regarder.
La route là, wallah, c'est pas beau, il y a des mafias, beaucoup.
D'accord.
Les voleurs.
Beaucoup de voleurs sur la route.
Wallah, il y a des voleurs, ils prennent les motos là.
Des voleurs ou des...
Des voleurs, il y a...
Des bandits armés.
Ah.
Ils vous volent de la marchandise.
Tout. Mafia, voleurs, il y a des comme ça. Les caisses. On va ouvrir les caisses.
Tu avais la clé?
Il y a des coups de... Mohamed, Ghali, atoum fatih la kias, hat.
Les groupes armés que vous voyez, c'est quel groupe?
Le mafia, le comme ça,
le turban.
Le turban. Mais normalement, ça rentre toujours le rentre la frontière là, Tinzala.
La frontière algérienne.
Toujours. Il y a une comme ça, là, une voiture, le petit, une voiture 4x4 comme ça. Toujours les masques comme ça.
Le chèche sur la tête.
Toujours, je ferai, t'arrête. Je vais envoyer comme ça, on va aller.
Il vous fouille.
Il le fouille avec les cabines, avec les caisses là.
L'argent.
Si il trouve, il prend. Voilà. La route là, wallahi, c'est trop fatigue.
C'est dangereux.
C'est 30 kilos arrêt, 30 kilos jusqu'à la frontière de Niger. Si on rentre les frontières de Niger, c'est bon. Mais là-bas,
Mali ici.
Mali.
La plus de Mali. Wallahi, il y a beaucoup.
Beaucoup de groupes armés.
Beaucoup des armées là, des voleurs là, Allah.
Ces commerçants ne parlent que de voleurs, de mafias. Impossible de savoir si les bandits qu'ils rencontrent sont de simples pillards, s'ils sont liés aux groupes armés signataires de l'accord de paix ou s'il s'agit de combattants djihadistes. Une vingtaine de kilomètres plus loin se dressent les murs blancs de Tinzawaten, ville frontière à cheval sur le Mali et l'Algérie. Mais contrairement aux djihadistes qui se replient régulièrement en Algérie, les soldats de la force Barkhane ne traverseront pas la frontière. Le Niger, la Mauritanie ou le Burkina font partie du G5 Sahel qui permet des contrôles transfrontaliers. L'Algérie n'en fait pas partie. Les soldats français s'installent donc aux abords de la ville côté malien pour surveiller la zone. Un pick-up s'approche lentement. Un drapeau flotte à la fenêtre, c'est celui du MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. En attendant la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2015 avec le Mali, ce sont toujours les ex-rebelles qui contrôlent cette zone.
Salam alaikum.
Salam alaikum. Salam. Salam.
Capitaine Thibault.
Ça va bien.
Et vous, vous travaillez ici, vous êtes garde frontière?
Je suis le chef de camp.
Vous êtes le chef de camp?
MNLA.
MNLA,
oui.
MNLA,
d'accord. Camp militaire à Tinzawaten.
Tout se passe bien?
Très bien.
Ah oui?
Oui.
D'accord. Actuellement dans la région là, est-ce qu'il y a du racket? Les gens qui prennent les camions pour demander de l'argent, est-ce qu'il y en a?
On n'a rien constaté quand même.
Vous n'avez rien constaté?
On n'a rien constaté quand même.
Ouais. Des groupes armés terroristes dans le coin?
Il y en a quand même, on ne les voit pas.
Vous les voyez pas?
Peut-être là.
Ouais.
Ils savent que tout le monde les cherche quoi.
Oui.
Ouais.
Ils passent mais ils se...
Si ils passent, ils passent en cacheterie, personne ne les voit quand même.
Ouais.
On ne les voit pas quand même.
Ouais.
Ah ouais. Les gens ils disent qu'il y en a ici, il y en a, mais non, quand même, on ne le voit pas. La brousse, là, trop
oui.
Large. Quoi,
oui,
là, trop grande. Il n'y a pas assez de moyens pour surveiller la terre.
Pour les arrêter.
Ici, c'est impossible de contrôle.
C'est le poste, il est déjà en Algérie ou il est encore en
Algérie? Algérie, c'est l'Algérie. Ici, à Zouar.
Et il y a beaucoup de passages?
Oui, beaucoup de passages, oui. C'est des commerçants seulement, bien des gens de la brousse, là, qui amènent leur bétail pour vendre ça ici, et puis ils retournent avec la nourriture et puis tout ça. Et puis les camions là, qui transportent des marchandises pour partir au Niger ou bien partir au Gao Kidal.
Souvent les commerçants disent qu'il y a l'insécurité par ici.
La sécurité là, c'est quelque chose qui est trop difficile.
Les groupes armés terroristes, en Saradine, etc. Ils sont dans les montagnes là?
Non, non, il n'y a pas de terroristes dans les montagnes. Non, on fait des patrouilles et puis on constate rien quoi. Je ne t'ai pas dit qu'il n'y a pas des gens là qui partent dans la nuit et puis on ne le voit pas quand même. C'est qui est sûr quand même qu'on ne le voit pas. Il se cache.
Ouais, non, bon, bah, nous on est dans la zone, hein. On va voir s'il y a du mouvement là, de l'autre côté. Là. Enfin,
si vous avez besoin de nous,
ouais.
On est à côté.
D'accord.
Pendant la journée, les soldats français contrôlent plusieurs véhicules, des familles, des hommes à moto ou à pied avec leurs chameaux et d'autres camions.
Est-ce qu'il a une pièce d'identité?
Leur permis, Ras.
Il a un permis de conduire.
Un permis, le
camion.
Dans le camion. Ils sont que tous les trois là dans le camion?
تراضي ونص
والله تراضي ونص الله. Il va venir avec nous et puis il va nous montrer sa pièce d'identité. Je peux lui demander si tu peux voir sa pochette, si ça le dérange.
Il
vient d'où là exactement ?
Il est de Marad.
Déjà ?
Non, pas allé. Il a quitté le village là-bas.
D'accord, et il va jusqu'où comme ça ?
Mais tu es de Marad.
Marad va chez Niger, tiens.
Il va au Niger.
Il va au Niger, il passe par le Mali. Donc il fait Algérie, Mali. Il redescend et il va au Niger, c'est ça?
Oui.
Il y a quoi dans son camion?
Il y a un camion.
Il y a la race, sucre, macaron.
Il y a des bagages là-dedans, des pâtes, des savons.
Il livre ça que au Niger ou il s'arrête à plusieurs endroits?
Il est là, il est là, il est là, Niger.
Direct au Niger.
Direct au Niger, oui.
C'est une carte grise du véhicule?
C'est une carte grise du véhicule, oui.
Ok. C'est ici. Ah, c'est pour la douane. Okay.
Demande-lui, c'est quoi sur la caisse qui est sur la bâche? Il y a une caisse
métallique.
Il y a
des
lots
là-dedans.
D'accord. Okay. Bon, tu peux le remercier et du coup, il peut partir.
Il est venu avec les marades.
Rien à signaler, le camion peut repartir. Plus loin, plus tard, deux hommes à moto sont fouillés. Ils transportent quelques grammes d'or et de la cocaïne. Le trafic de drogue est l'une des principales sources de financement des groupes djihadistes. Pourtant, les deux hommes sont relâchés. Sans preuve formelle de lien avec Ansardine ou Acmi, rien n'autorise les soldats français à les arrêter. Barkhane est une force antiterroriste et ne peut se substituer à la police nationale. Les noms des deux hommes seront donc simplement transmis à la police malienne, absente de cette partie du nord du Mali. Le convoi poursuit donc sa route, ses contrôles et ses fouilles. Prochain objectif, un tonneau abandonné au milieu des dunes. Le lieutenant Guillaume part inspecter les lieux avec ses hommes.
Il y a du matériel qui a été aperçu dans le désert, qui peut être utilisé par les groupes armés terroristes. Là, il peut s'agir d'un plot logistique, donc d'essence. Il peut s'agir également d'armement qui va être caché, de motos enterrées, de pick-up enterrées dans le sable.
Là, vous venez de tomber déjà sur quelque chose?
Non, c'est plus du matériel pour les voitures, de l'huile pour moteur ou des trucs comme ça. 113 visuel sur ton objectif. Face à toi, 150 mètres, au pied d'un gros rocher, un bidon, un fût vert et blanc.
De
ouais,
vas-y, essaye là-dedans.
La sonde,
la sonde. Ouais, j'ai passé un gros coup de sonde. La sonde, elle est même pas assez grande pour aller pour les trous.
Je suis en train de regarder si il n'y a pas une cache
à côté du bidon d'essence.
J'ai sondé et vu que la terre elle est molle, ça a été creusé. Suspicion qu'il y avait quelque chose à l'intérieur bien avant quoi. Non, il n'y a rien, sergent.
Sergent.
Alors, je sais pas c'est quoi ça. Hein.
C'est sur la roche, juste à côté du bidon, juste à côté du trou.
C'est ça, oui, j'ai des écritures écrites.
De l'arabe, des chiffres.
Des degrés, oui, apparemment. Plusieurs chiffres là, écrits sur le mur.
C'est rare, sergent, il y a rien.
Un tonneau vide, des boîtes de métal, des écritures sur la roche. Rien. La fouille se prolonge quelques kilomètres plus loin. Des renseignements obtenus par Barkhane laissent supposer une éventuelle cache d'armes.
D'après vos renseignements, elle se trouverait où cette potentielle cache d'armes?
Ici là, environ à 80 mètres, là, dans la zone en contrebas, la zone découverte qui est là.
Mais à défaut de cache d'armes, les soldats font une autre découverte.
Ouais, c'est ce que je me dis, hein. J'ai l'impression que c'est un véhicule qui a pété là-bas. À 71. À 71, là j'ai visuel sur un véhicule sur la piste. J'ai l'impression que le véhicule il a sauté. Il est posé sur la route là et on dirait que l'arrière du véhicule a claqué. À environ 200 mètres de ma position là. Et on va y aller directement à pied parce que si le véhicule a sauté là-bas, c'est que la route a éliminé.
Là, tu peux envoyer un binôme sur celui-là. Le tas là-bas, d'accord.
Un DHPM avec un mec.
Tu vois là-bas, là, là où la pierre où elle est droite, là. Où il y a une pierre qui monte en pic. Ok, vous partez, vous fouillez dans la zone là-bas, d'accord. Vous prenez là le tas de pierre qui est là-bas. Allez, cours, cours, cours.
Votre sonde n'a pas l'air de trop s'affoler?
Non, là pour l'instant il n'y a rien.
Il y a une personne qui passe avec le DHPM pour voir s'il n'y a pas des choses enterrées sous le sol.
C'est quoi un DHPM?
C'est tout ce qui est un détecteur magnétique. Et une autre personne qui regarde visuellement s'il ne voit pas déjà quelque chose.
En regardant sous les trous, dans les rochers?
Voilà, exactement. Après, des fois il n'y a rien, il n'y a rien.
On nous relaxe, d'accord. Vous restez bien derrière moi et vous suivez bien le cheminement qu'on a à droite. Vous allez ni à droite ni à gauche, ok.
Parce que là, c'est quoi la difficulté?
Là, on avance en toute sécurité jusqu'au véhicule pour être sûr qu'ils n'ont pas piégé l'axe de progression, parce que ça peut être tout simplement un leurre, quoi.
C'est la carcasse de véhicule que vous avez décelé du haut de la ligne de crête.
De la ligne de crête.
Et qu'est-ce que vous soupçonnez?
Explosion sur une mine. Il peut en avoir plusieurs.
Une équipe de démineurs sécurise un mince chemin jusqu'à la carcasse du véhicule, puis l'inspection peut débuter.
Ça a bien pété. Ouais, c'est bien un pick-up qui a sauté sur un engin explosif, quoi, sur une mine. Ou... Ouais, ça a claqué depuis un moment, donc...
Cylindres. Les quatre petits cylindres.
La boîte à munitions, elle est là. Tout a cramé, hein, tout a brûlé, tout a explosé, enfin il n'y a plus rien de... Ces véhicules certainement de soit GAT, soit
HCU. Groupe armé terroriste.
MNLA, voilà, ou soit MNLA ou HCUA.
Donc un groupe armé, terroriste ou signataire de l'accord de paix, ça on peut pas trop savoir.
Vu le véhicule, il est sur le toit, je pense qu'il devait rouler bien vite. Dû à l'explosion, il a été retourné sur le toit et puis ouais, on voit les débris tout autour, ça a dû être assez violent quoi.
En revanche, on ne voit pas de traces humaines.
Non, aucune trace humaine. Puis ils ont dû venir récupérer soit les corps, ou alors je doute qu'il y ait eu des blessés. Quoi. Je pense que là, c'était des morts, mais bon. Ça, c'est certainement les munitions qui ont cramé. Quoi.
C'est à ce genre de détails qu'on voit que c'était un groupe armé?
Ouais, la caisse à munitions, les munitions qui traînent un peu partout. Quoi. Je pense pas que les commerçants se promènent avec des caisses à munitions. Quoi. Ça sent terrible. Ok, on va retourner au niveau du véhicule, on va prendre le même passage, le même axe.
Pour les soldats de la force Barkhane, cette traque s'apparente à une chasse aux fantômes. L'ennemi est présent, mais on ne le voit pas. Il observe les mouvements de la force, mais on ne le trouve pas. Il cache ses armes, et on les cherche comme autant d'aiguilles dans un désert sans fin. Au cours de l'opération Iroquois, près d'un millier de cartouches, des obus d'artillerie et du matériel informatique ont finalement été découverts. Un bilan plutôt maigre. Mais le colonel Dabas, qui a dirigé l'opération, ne s'arrête pas aux chiffres.
Moi, je considère que c'est une réussite tactique. On a su trouver les bons modes opératoires pour éviter les pièges d'Ansaridine. Deux semaines avant le début de l'opération, le chef d'Ansaridine enjoignait la population de la Drar des Ifouras de rejoindre le djihad ou de quitter la zone. Et je trouve que cette opération est une réponse magistrale, une démonstration de puissance au cœur de sa zone d'influence historique. Notre mission, vous le savez, c'est neutraliser des groupes terroristes, soit dans Saridine, soit les Katibas d'Al-Qaïda ou Maghreb islamique. On a atteint des effets tangibles pour chasser les terroristes, pour détruire un certain nombre de ressources et puis de récupération de ressources, alors soit documentaires, soit électroniques, qui vont nous permettre d'acquérir du renseignement, de mieux connaître le système terroriste et puis ça va nourrir la conception de nos futures opérations. Donc l'histoire n'est pas finie.
Barkhane, chasse aux fantômes dans le désert normalien. Réalisation Ludivine Amado, un grand reportage de David Bachet. Mémoire d'un continent.